Hébreux 8, le premier verset. Or, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre des lieux saints et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l'homme. Car tout souverain sacrificateur est établi pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il était nécessaire que celui-ci aussi eût quelque chose à offrir. Si donc il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur, puisqu'il y a ceux qui offrent des dons selon la loi, lesquels servent la figure et l'ombre des choses célestes. Comme Moïse, quand il allait construire le tabernacle, a été averti divinement, car prends garde, dit-il, à faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Or maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures promesses. Car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'eût jamais été cherché de Dieu pour une seconde. Car en censurant, il leur dit, « Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda une nouvelle alliance, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi je les ai délaissés, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur. En mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur leur cœur, et je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple. Ils n'enseigneront point chacun son concitoyen et chacun son frère, disant « Connais le Seigneur », car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je serai clément à l'égard de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs iniquités. En disant une nouvelle, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Ce chapitre commence la deuxième partie de l'Épître aux Hébreux. Ce qu'on a vu jusqu'à ce moment-là, nous avons vu la grandeur du Seigneur Jésus et un peuple qui traverse le désert. Le Seigneur est plus grand que les anges, plus grand qu'Aaron, plus grand que Moïse, plus grand que Josué, plus grand que David, plus grand que Salomon. Et ainsi l'emphase était sur sa personne. Et le chapitre commence par ce mot « or la somme ». Donc il donne ici une conclusion. C'est un sommaire et aussi la conclusion de ce que nous disons. On a dit déjà, c'est comme l'auteur est en même temps un orateur. Il donne un message. Et c'est un long message, mais c'est un message très intéressant et très encourageant. On a vu le contexte, c'était pour les Juifs à ce moment-là, les Juifs chrétiens, je veux dire, qui étaient en danger de retourner dans le judaïsme. Et en présentant la personne du Seigneur Jésus, l'auteur, mais plutôt l'Esprit Saint par l'auteur, voulait fixer leur regard sur le Seigneur qui est maintenant dans la gloire. C'est clair que nous avons besoin de cela aussi. Nous devons fixer nos regards sur Christ dans la gloire. Mais nous sommes un peuple dans le désert, comme chapitre 3 et 4, nous avons vu un peuple dans le désert. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus soutient son peuple pour la marche à travers le désert. On a vu ainsi le Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur. On a vu la dernière fois, il n'était pas de la tribu de Lévi, donc il ne pouvait même pas fonctionner comme sacrificateur sur la terre. Mais on a vu, à la fin du chapitre 2, il y a une exception. Lors de la croix, Là, le Seigneur Jésus était le sacrifice, et on en parlera plus tard dans chapitre 9 et 10, mais il était aussi le sacrificateur qui a présenté son sang à Dieu. Et ainsi, on l'a vu dans Hébreux 2 déjà comme sacrificateur, une fois pour toutes. Comme il était le sacrifice une fois pour toutes, il était aussi à ce moment-là, sur la terre, un sacrificateur une fois pour toutes. Ensuite, nous avons vu, le Seigneur Jésus est le sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, pour soutenir un peuple qui est dans le désert. On a vu cela dans Hébreux 4. Le Seigneur nous soutient, le Seigneur nous guide, le Seigneur est tout ce dont nous avons besoin. Donc, il pourvoit dans nos besoins. Il pourvoit dans les besoins d'un peuple de pèlerins. Et il leur donne du secours, un secours qui vient du ciel. Pour cela, il faut donc relire chapitre 4 à la fin, surtout. Ce qu'on va voir maintenant, dans chapitre 10 plutôt, mais c'est ici le point tournant, on tourne la page ici, pour ainsi dire. Maintenant, il va parler du Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur, pas seulement à l'égard de nos besoins, des besoins d'un peuple sur la terre. Il va maintenant présenter le Seigneur Jésus comme un souverain sacrificateur qui est convenable. On a vu cela à la fin de la dernière fois, verset 26 du chapitre 7, car un tel souverain sacrificateur nous convenait. Dieu voulait avoir des fils pour lui-même. Et c'est pour eux que Dieu donne un tel souverain sacrificateur. Pas seulement pour les soutenir dans le désert, mais pour les introduire dans la présence de Dieu. Dieu cherche une compagnie de fils. Et ainsi, le Seigneur Jésus est le grand conducteur pour amener cette compagnie de fils dans la présence de Dieu. On a vu cela déjà dans Hébreux 2, verset 12, ou verset 10 plutôt, où il est dit, non, c'était verset 10 à la fin, Hébreux 2, verset 10, amenant plusieurs fils à la gloire. Vous voyez, c'est un des buts du ministère du Seigneur Jésus, pour amener plusieurs fils, ou beaucoup de fils, à la gloire. Pas seulement pour les soutenir pour le voyage à travers le désert, c'est inclus aussi, mais pour qu'ils soient là pour la satisfaction du cœur de Dieu. Donc Dieu voulait avoir des fils, et ils sont vus ensemble avec le Fils. Et on a vu plusieurs de ces aspects-là, de cette pensée-là, je l'ai juste résumé. On a vu, premier chapitre, Christ oint par Dieu, au-dessus de ses compagnons. Mais ça veut dire, on a vu, Christ a une relation avec nous, nous sommes ses compagnons. Ensuite, nous l'avons vu comme fils sur la maison de Dieu, Hébreux 3. Ça veut dire, nous sommes sa maison. Ça veut dire, nous sommes des fils qui appartiennent à cette maison. On a vu le Seigneur Jésus comme héritier sur toute chose, ou de toute chose. Nous sommes co-héritiers avec lui. Ainsi, nous voyons le Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur, au chapitre 7, verset 26, pour une compagnie de sacrificateurs. Nous, les croyants, nous sommes des fils sacrificateurs. Et ainsi, il nous convenait un tel souverain sacrificateur. Chapitre 7, verset 26. Il est le premier-né entre beaucoup de frères. Voilà encore une fois la relation entre lui et nous. Il est celui qui sanctifie. Nous sommes ceux qui sont sanctifiés. Et maintenant, on va voir, chapitre 8, il est le ministre pour la satisfaction du cœur de Dieu. Pas maintenant pour nos besoins, mais pour les intérêts de Dieu dans le ciel, versets 1 et 2. Et ainsi, nous sommes vus comme serviteurs avec lui. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu et nous servons Dieu avec le Seigneur Jésus. On verra cela en détail, chapitre 10, verset 19. Ayant donc fait une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. C'est par lui, et on verra une autre fois, chapitre 13, 15, c'est par lui que nous pouvons offrir des offrandes. Donc nous sommes aussi des ministres, comme le Seigneur Jésus. Il y a donc un lien intime entre lui et nous. C'est toujours le cas. Ce que je voulais souligner maintenant, il y a beaucoup de sujets importants dans cet épître. On a vu des sujets importants par rapport à sa personne. Il est la meilleure personne. Et ainsi, nous avons vu Hébreux 1 et 2, des aspects de sa personne. Mais ici, nous voyons le Seigneur Jésus comme celui qui introduit un nouvel ordre de choses. Et cet ordre est meilleur. On a vu cela au verset 6, par exemple, une meilleure alliance, de meilleures promesses. Et l'emphase est maintenant sur un nouveau système que le Seigneur Jésus introduit. Pour avoir ce nouveau système, ça prend un nouveau sacrifice. C'est ça qu'on va voir, chapitre 9 et 10. Un nouveau sacrifice était nécessaire pour que un nouvel ordre de choses puisse être établi. Et ce nouvel ordre de choses est aussi un meilleur ordre. On a vu cela déjà un peu par rapport à Melchizedek, la dernière fois et l'avant-dernière fois. Là, on a vu des contrastes énormes entre ce qui est temporaire, ce qui est permanent, entre la loi de Sinaï et les promesses que Dieu a faites à David. On a vu beaucoup de contrastes la dernière fois. Maintenant, j'aimerais juste résumer quelques points, et vous, on va revenir à ça. On voit une nouvelle sacrificature, chapitre 7, selon l'ordre de Melchizedek. Ça va ensemble avec ce nouveau système que Dieu allait introduire. Ainsi, nous allons voir tantôt, dans chapitre 8, une nouvelle alliance, de nouvelles relations entre Dieu et son peuple. Chapitre 9, on verra un nouveau sanctuaire, et chapitre 10 aussi, qui est maintenant ouvert, un libre accès. Dans l'Ancien Testament, c'était fermé. Seulement une fois par année, c'était ouvert, mais seulement pour le grand souverain sacrificateur. Donc, c'est ça qu'on va voir au chapitre 9. Et au chapitre 10, nous allons voir, pas seulement ce libre accès, mais une compagnie d'adorateurs. Nous appartenons à cette famille de fils adorateurs qui ont cette liberté pour venir dans la présence de Dieu. Et c'est par le Seigneur Jésus. S'il est notre grand leader qui nous introduit dans la présence de Dieu. Ensuite, à la fin de l'épître, on verra le Seigneur Jésus comme le grand conducteur pour nous conduire à travers le désert, chapitre 11, à la fin du chapitre 10 déjà, chapitre 11, chapitre 12, une partie, et nous allons voir le Seigneur Jésus comme le grand conducteur qui nous conduit hors du camp. Ça, c'est tout un sujet, mais ça, c'est seulement au chapitre 13. Donc, les trois grandes divisions de cet épître, la meilleure personne, chapitre 1 à 7, un meilleur système, chapitre 8 à 10, et un meilleur conducteur qui nous introduit dans la présence de Dieu à la fin du chapitre 10, qui nous conduit à travers le désert, qui nous conduit hors du camp, le meilleur conducteur. C'est trois grandes divisions de l'épître aux Hébreux. Chapitre 8, le premier verset, on a déjà mentionné la somme, donc Paul, l'auteur, supposons que c'est Paul, je pense, il résume en quelques mots ce qu'il a présenté jusqu'à ce moment-là. Il est l'orateur qui parle, et il dit ici, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. C'est très beau de voir ça, nous avons, et ça vaut la peine de voir ici dans cette épître tout ce que nous avons. C'est un bien que nous avons déjà maintenant. Ce n'est pas un jour que peut-être on va avoir le salut. On a vu cela déjà la dernière fois. Nous avons le salut. Et ainsi, nous avons un tel souverain sacrificateur. Et ainsi, il y a beaucoup de choses que nous avons déjà maintenant. C'est vraiment très beau dans cette épître. On a vu cela, par exemple, à la fin du chapitre 6. Nous avons un ancre, chapitre 6, verset 19, nous avons une ancre de l'âme. Donc, par rapport à Christ qui est maintenant dans la gloire, nous avons une ancre de l'âme. Donc, quelque chose qui est solide lorsque nous sommes encore dans ce monde avec toutes ces insécurités et toutes ces tentations. Nous avons cette ancre, cette sûreté par rapport au Seigneur Jésus. Nous avons vu aussi dans chapitre 4, nous avons le Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur pour nos besoins. Ici, nous avons, mais maintenant, j'ai dit, c'est le point tournant. Il parle maintenant du Seigneur Jésus dans un autre aspect. Un tel souverain sacrificateur, l'emphase est maintenant, non pas sur ce qu'il fait pour nous, l'emphase est encore sur la grandeur de sa personne et en relation avec cela, sur ce nouvel ordre qui a introduit. Donc on doit souligner chaque mot ici. Nous avons, c'est notre bénédiction, c'est un bien présent et permanent. Un tel, c'est pour souligner comment il est spécial, comment il est différent, comment il est merveilleux, comment il est supérieur. Souverain sacrificateur, ça veut dire donc il est le chef de tout cet ordre, de tout cet ordre. Et ensuite, nous voyons qu'il s'est assis. C'est beau de voir dans la parole, il est assis, c'est sa position actuelle. Il est dit aussi dans la parole que Dieu l'a assis. Dieu l'a fait asseoir. Ici, il est dit, il s'est assis. Donc ça veut dire, par lui-même. On a vu cela aussi au premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Il y a un verset qui dit, il est à la droite du trône, ou il est là dans la gloire. Mais ici, l'emphase est sur le fait qu'il est assis. C'est une position qui implique que l'œuvre a été accomplie. Il n'a rien à être ajouté. Vous comprenez? S'il ne pouvait pas s'asseoir, ça veut dire que l'œuvre n'était pas complète. Vous voyez, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, est-ce qu'ils pouvaient s'asseoir? Est-ce que vous avez vu déjà des modèles du tabernacle? Est-ce que vous avez vu une chaise dans le tabernacle? Non, il n'y avait pas de chaise. Le service continuait tout le temps, jamais parfait, jamais complet. Ici, il n'y a pas seulement un chaise. Ici, il y a un trône. Et le Seigneur est assis là, à la droite. Donc, je mets l'emphase sur cette expression assis. Il s'est assis, c'est ce qu'il pouvait faire après cette œuvre qui était accomplie. Et il est assis, ça souligne sa position actuelle, le repos que l'œuvre a été accomplie une fois pour toutes. À la droite, ça implique le côté de faveur, il est là, et en lui, la faveur de Dieu s'exprime. La droite nous parle du privilège, il est là, privilégié. La droite nous parle aussi de l'autorité qu'il a, Dieu a délégué toute l'autorité au Seigneur Jésus. On voit cela dans 1 Pierre 3, verset 22, il est là aussi, à la droite, et il a toute autorité, tout lui est soumis, aussi les anges. Donc, toutes ces pensées-là sont impliquées par l'expression à la droite, une position officielle par rapport au gouvernement, parce que c'est le trône, à la droite du trône. Le trône, c'est par rapport au gouvernement. Le trône, c'est par rapport à l'administration. Et ainsi, le Seigneur Jésus sera assis sur le trône, Zacharie 6, verset 13, le sacrificateur et le roi, les deux ensemble. Sous l'ancienne alliance, le sacrificateur ne pouvait pas être roi, le roi ne pouvait pas être sacrificateur. Mais, avec ce nouvel ordre de choses que Dieu a introduit à cause de l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus, Il y a maintenant cette position. Il y a un roi et un sacrificateur. On a vu cela avec Melchisédek. Roi, sacrificateur. Et là, l'expression trône nous souligne donc le gouvernement, l'administration. Ensuite, il ajoute encore une pensée de la majesté. Ici, toutes les pensées qu'on a eues sont encore renforcées par le fait que c'est de la majesté. Et ça souligne la gloire de Dieu. Le mot majesté implique la pensée de grandeur, de quelque chose qui est méga, qui est grand, qui est excellent. Mais je pense que ça inclut la pensée de la nuée Shekinah. On sait que Dieu, dans l'Ancien Testament, s'est manifesté par la nuée de Shekinah. Par exemple, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, la nuée est allée en avant. La nuée les a protégés, la nuée était là, et ça nous parle de la gloire de Dieu. Cette nuée a rempli le tabernacle. Lorsque le tabernacle était prêt, la nuée a rempli le tabernacle. Exode 40. Ensuite, Dieu a commencé à parler à Moïse, Lévitique 1, verset 1. Ensuite, plus tard, sous les jours de Salomon, la nuée a rempli le temple qui était inauguré à ce moment-là. C'est très beau. Plus tard, à cause de l'infidélité du peuple, qu'est-ce qui s'est passé? La nuée s'est levée et la nuée est partie. Ézéchiel 9 et 10. Dans quelques étapes, lentement, la nuée s'est éloignée. D'abord du sanctuaire, ensuite du temple, ensuite de la ville, éloignée et dans la gloire. Mais Ézéchiel a vu cette gloire. Ézéchiel était tout près de Dieu. Il a vu comment, dans Ézéchiel 1 par exemple, comment cette gloire de la Shekinah était par rapport au trône, par rapport au gouvernement. Il a vu ces chars, quatre chars pour ainsi dire, qui portent le trône et sur le trône, Dieu lui-même, mais vu dans la ressemblance d'un homme, Ézéchiel 1. C'est encore cette gloire qu'il a pu voir. Maintenant, cette gloire est revenue dans la personne du Seigneur Jésus. Sa gloire était vue, la gloire de Dieu était vue dans le Seigneur Jésus. Dans Jean 1, il est dit, il a tabernaclé, il a habité, mais littéralement, il a tabernaclé au milieu de nous. Et nous avons vu sa gloire. C'était la gloire de Dieu, c'était encore la majesté de la Shekinah qui était là. Mais les Juifs l'ont crucifié. Il a été rejeté par toute l'humanité. Et maintenant, il est dans le ciel. Et là, on voit cette gloire, cette majesté est là par rapport à la personne du Seigneur Jésus. Et nous, vous et moi, nous avons ce libre accès. Nous voyons le Seigneur Jésus couronné de gloire et d'honneur. Donc toute cette majesté, toute cette splendeur, comment il est suprême est présenté dans ces quelques mots dans ce verset. Et notons bien aussi, c'est dans les cieux, tantôt je parlais sur la terre, par rapport à Israël, les choses étaient sur la terre. Par rapport au christianisme, les choses sont dans les cieux. Pourquoi? Parce que Christ est là, Christ est dans les cieux. Et notre attention est maintenant dirigée vers le ciel, ou vers les cieux. Et qu'est-ce qu'il fait là? Là, il est ministre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est là pour les intérêts de Dieu. On dirait, l'œuvre est accomplie? Oui. Lorsque le Seigneur Jésus a crié fort, c'est accompli. C'est un mot dans l'original. Dieu a accepté cette œuvre. Et à cause de cette œuvre, le Seigneur Jésus est maintenant là, à la droite du trône de la majesté. Il a servi Dieu sur la terre, l'œuvre est accomplie sur la terre, et maintenant le Seigneur est dans la gloire comme ministre. C'est un mot très spécial par rapport à l'administration dans les choses de Dieu. Par exemple, Zacharie, dans Luc 1, la note le dit, est vu dans ce service officiel. Donc ici, nous voyons le Seigneur Jésus comme un serviteur officiel. Dieu l'a engagé, Dieu l'a établi comme ce ministre. Ce qui est très beau de voir, c'est lorsque Paul et Barnabas sont partis pour ce travail que l'Esprit de Dieu leur a confié le même mot dans l'original est utilisé par rapport à leur service, pour le ministère pour lequel Dieu les avait appelés. Le mot est utilisé pour le gouvernement, par exemple, dans Romains 13, verset 6. Le gouvernement est un liturgos, c'est un officier, c'est un office pour Dieu. Paul était ainsi officier de Jésus-Christ, Romains 15. Mais ce qui est beau, les croyants sont aussi les officiers ici, souvent par rapport à des personnes, à des besoins ici sur la terre. Donc c'est un mot très spécial qui est utilisé quelquefois dans le Nouveau Testament, mais ici l'emphase est sur le fait que c'est officiel, institué par Dieu. Un petit détail, mais c'est très beau de voir ça. Ce mot qui est utilisé ici est utilisé aussi dans l'Ancien Testament, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et on trouve cela par exemple lorsque la reine de Sheba est venue pour voir Salomon, lorsqu'elle a vu ce service merveilleux, elle était tellement étonnée. Le mot service là, c'est de la même racine que ce mot ministre qu'on a ici. Donc c'est beau, c'est par rapport à quelque chose qui est officiel, que Dieu a établi, mais c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce service de Salomon était pour la gloire de Dieu. Et le service que le Seigneur Jésus a maintenant, là dans le ciel, c'est pour la gloire de Dieu. Donc imaginons, il y a maintenant un ministre dans le ciel. Il est là 24 heures par jour pour être là pour la satisfaction de Dieu. Lorsque Dieu a vu le Seigneur Jésus sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le ciel. Il a dit, voici mon fils bien-aimé. Un autre verset dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Et celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu a ouvert le ciel pour exprimer sa satisfaction. Maintenant, le Seigneur, la même personne est dans la gloire. Et Dieu a encore sa satisfaction en lui. Et dans ce qu'il fait là, il est là ministre pour satisfaire le cœur de Dieu. Mais je répète, ce n'est pas ici pour établir la base pour notre salut, ou pour établir la base pour que nous puissions fonctionner comme ministre ou comme serviteur. Non, ça, il a fait une fois pour toutes. Et on va voir ça en plus de détails dans chapitre 9 et 10. Si les ministres maintenant, c'est dans la gloire, pour les intérêts de Dieu, l'œuvre a été accomplie, rien ne peut être ajouté, mais c'est maintenant ce qu'il fait dans la gloire pour satisfaire le cœur de Dieu, constamment. Il s'occupe des intérêts de Dieu maintenant dans le ciel. Et ainsi le Seigneur va être le ministre des lieux saints pour toujours. Ok, c'est clair, Hébreu ne dépasse pas la pensée de la création. Donc, ça ne veut pas dire que dans la maison du Père, on a la même pensée. Ici, c'est tout vu par rapport à la création ou par rapport à la nouvelle création. J'ai dit la nouvelle création parce que verset 2 en parle du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l'homme. Là, nous voyons le Seigneur Jésus comme le chef de la nouvelle création qui a introduit maintenant quelque chose qui demeure, qui ne peut pas être remplacé par quelque chose d'autre. Le vrai tabernacle veut dire la pensée que Dieu a exprimée par le tabernacle dans le désert, par Moïse. C'était juste une image des ombres, comme on verra plus tard, de cette chose qui est vraie, qui est réelle, qui est là selon le cœur de Dieu pour toujours. Donc un contraste avec l'Ancien Testament, et le vrai tabernacle veut dire quelque chose qui est vraiment selon le cœur de Dieu. L'Ancien Testament, Dieu était limité. Maintenant, Dieu est satisfait, on a vu. Ce mot vrai, on trouve par exemple dans Jean 15, lorsque le Seigneur parle, « Je suis le vrai cèpe. » Et ça veut dire, ça remplace ce qu'on voit sous l'ancien ordre, et ça implique la pensée que le Seigneur Jésus a introduit quelque chose de nouveau, qui reste, qui demeure, qui est parfait, le vrai tabernacle. Le mot tabernacle, dans l'original, dans l'hébreu, implique aussi la pensée de la nuée Shekinah. le mot tabernacle dans l'original hébreu est intimement connecté avec ce mot Shekinah. Donc, ce résumé, ce sommaire est vraiment merveilleux. Mais là, il va parler au verset 3. Et verset 4 de deux choses. La première chose, tout souverain sacrificateur est établi pour offrir des dons. Donc si le Seigneur Jésus est sacrificateur, il est aussi établi pour offrir des dons. Et c'est ça qu'on va voir, chapitre 9. Il s'est donné lui-même un sacrifice. Donc vous voyez, c'est juste une remarque générale, un sacrificateur est établi. C'est pourquoi il était nécessaire que celui-ci aussi eût quelque chose à offrir. Donc là, on verra en détail, comme j'ai dit, le Seigneur s'est donné lui-même un sacrifice. Il s'est offert lui-même. Maintenant, dans la gloire, il a aussi un service. Comme dans l'Ancien Testament, Aaron avait un service, par exemple, par rapport au chandelier, par rapport au pain, qui était présenté sur la table des pains de préposition. Tout cela est vraiment des images de ce que le Seigneur fait maintenant dans la gloire. Donc il a aussi quelque chose à faire dans la gloire. Mais on a vu cela déjà dans la première partie de cette épître par rapport à un ministère pour nos besoins. Mais ici, l'emphase est par rapport aux besoins du cœur de Dieu, pour satisfaire le cœur de Dieu. Verset 4 va souligner encore un autre point. Ce service ne peut pas s'accomplir sur la terre. Si donc il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur. On a vu dans chapitre 7, à cause du fait qu'il n'était pas de la tribu de Lévi, il ne serait pas sacrificateur sur la terre. Sauf à la fin de sa vie, à la croix, comme j'ai dit, mais c'était l'exception. Mais dans sa vie, il n'était pas sacrificateur parce qu'il n'appartenait pas à la tribu de Lévi. Maintenant, une petite parenthèse. Moralement, le Seigneur Jésus était un sacrificateur. C'est ce qu'on voit dans Luc, l'évangile de Luc. Mais c'est juste une parenthèse. Donc, verset 4 souligne qu'il n'est pas un sacrificateur sur la terre, puisqu'il y a ceux qui offrent des dons selon la loi, lesquels servent la figure et l'ombre des choses célestes. Donc ce qui est remarquable ici, à ce moment-là, lorsque l'épître a été écrite, il y avait un service sur la terre, dans le temple à Jérusalem. Mais le vrai service a lieu dans la gloire. Et à la fin du chapitre 8, on a vu que ce qui se passait à ce moment-là dans le temple était pour terminer, était pour disparaître. Ça appartenait à cette vieille chose, ça appartenait à un ancien ordre qui était pour disparaître. Mais à ce moment-là, les deux coexistaient pour un temps. Le nouveau système, dans la gloire, et les chrétiens sur la terre, les juifs chrétiens sur la terre, représentaient ce nouveau système, et en même temps, le judaïsme, qui avait rejeté le Messie, continuait encore pour quelques années, jusqu'à l'année 70, et c'était pour disparaître. Maintenant, ce service en soi, sur la terre, en soi, c'était déjà une figure et l'ombre des choses célestes, vous voyez ? Où est-ce qu'on trouve cela? Déjà dans Exode 25. Lorsque Moïse était sur la montagne, Dieu lui a montré toutes ses pensées dans le ciel. Et dans le tabernacle, Moïse a fait donc... qu'est-ce que je dirais là? C'était pour refléter ces choses qu'il avait vues dans le ciel. Maintenant, dans le système de Moïse, ces choses reflétaient donc, d'une part ou d'une autre, les choses qu'il avait vues dans le ciel. Mais c'était un ministère sur la terre. Maintenant, l'emphase est sur qui est réel, ce qui est vrai. L'emphase est sur ce qui se passe dans le ciel par le Seigneur Jésus. Donc il y a beaucoup de contrastes. Mais comme j'ai dit déjà quelques fois dans le passé, il y a souvent des parallèles. Et c'est pour ça qu'un tel épître comme l'épître aux Hébreux est tellement difficile à analyser, parce qu'on doit voir quand il y a un parallèle, quand il y a un contraste. À la fin du verset 5, il explique maintenant pourquoi c'était la figure et l'ombre des choses célestes, parce que Moïse était averti divinement, « Prends garde, dit-il, à faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc d'un côté, dans ce modèle, nous voyons quelque chose des choses célestes, mais c'était seulement l'ombre de ces choses. La réalité est là maintenant par rapport à Christ dans la gloire. Et ainsi, les chrétiens devraient réaliser, si on va retourner dans le judaïsme, si on va retourner dans le temple, on retourne aux ombres, tandis que nous avons déjà la réalité dans le Seigneur Jésus. C'est ça le point à saisir. Nous avons la réalité dans le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on a besoin de retourner aux ombres? Pas du tout. Ce serait une perte. Verset 6. Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent. Vous voyez, un contraste maintenant. Des choses de la loi ou du système de Moïse, on ne trouve jamais que c'était plus excellent. Peut-être c'était excellent, mais maintenant, par rapport à Christ, les choses sont plus excellentes. On a vu dans Hébreux 1, verset 4, il a un nom plus excellent, même plus excellent que les anges. Et ainsi, ce système qui va ensemble avec le Seigneur Jésus est plus excellent que le système qui était introduit par Moïse, que Dieu a donné dans ce temps-là. Mais c'était limité, c'était seulement pour un temps, c'était les ombres des choses célestes, et maintenant, l'heure est accomplie par le Seigneur, maintenant on a la vraie chose. On ne veut pas avoir une contrefaçon, on veut la réalité, n'est-ce pas? Et ceux qui voulaient retourner au judaïsme voulaient se satisfaire d'une contrefaçon, de quelque chose qui était des ombres ou des images seulement. Mais nous avons la réalité, donc il faut continuer avec le Seigneur, avec lui, où tout est vrai et réel. Maintenant, il y a une expression au verset 6, que Christ est un ministre, mais là c'est un autre mot, qu'il a obtenu un ministère. Donc ici, il a encore ministre. Mais ce mot ministère est plus général que le mot ministre du verset 1 et 2. Et pour ce ministère qu'il a maintenant, il est un médiateur d'une meilleure alliance. L'alliance est aussi souvent appelée la nouvelle alliance. Et on verra dans les versets qui suivent quelques détails là-dessus. Mais ce que je voulais souligner maintenant, on a besoin de cette nouvelle alliance ou de cette meilleure alliance par rapport aux choses du passé qui n'étaient pas suffisantes. Et pour avoir cet accès au sanctuaire, comme on verra au chapitre 9 et 10, ça prenait ce nouveau sacrifice, ça prenait aussi cette nouvelle alliance pour régler les choses d'une nouvelle façon. Une alliance, on ne peut pas parler de la nouvelle alliance en détail là, mais c'est vraiment un contrat entre Dieu et son peuple. Mais quelle est la différence avec la première alliance? Dans la première alliance, tout dépendait de la fidélité de l'homme. Mais ils ont manqué. Ils ont manqué. Dieu leur a dû faire des reproches parce qu'ils ont manqué. Ils ont dit trois fois, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ont accompli leur promesse? Non, malheureusement pas. Et ainsi, la première alliance a manqué. Pas parce que Dieu n'avait pas donné une bonne alliance. Même dans Romains 7, il est dit que la loi est bonne et parfaite et sainte. C'était bon en soi, mais cette alliance a manqué à cause de l'infidélité et de l'incapacité de l'homme. L'homme n'était pas capable en lui-même d'accomplir cette alliance. Maintenant, nous trouvons le Seigneur Jésus. Lui, il est garant pour ce nouveau système. Par son sacrifice, il s'est donné en sacrifice, et ainsi il est garant pour que cette nouvelle alliance puisse continuer tout le temps. Cette nouvelle alliance n'aura jamais un moment où ce serait insuffisant. Comme l'ancienne alliance était insuffisante à cause de l'incapacité de l'homme, ce ne sera jamais le cas avec la nouvelle alliance. Parce que toutes les demandes de Dieu, toutes les obligeances ont été accomplies par le Seigneur Jésus. Et ainsi Dieu est satisfait. Ainsi Dieu peut maintenant montrer sa satisfaction au peuple de Dieu, comme il va le montrer avec la nouvelle alliance dans les jours à venir à Israël. Et ainsi il y a 7 mots par rapport à cette nouvelle alliance, ce que j'aimerais souligner. Mais d'abord, une pensée. Nous ne sommes pas sous la nouvelle alliance. Nous avons, par contre, l'apôtre Paul comme ministre de la nouvelle alliance, 2 Corinthiens 3. Nous avons la coupe de la nouvelle alliance, le dimanche matin, la coupe de la nouvelle alliance. Nous avons les bénédictions de la nouvelle alliance. Par anticipation, la nouvelle alliance va être faite, verset 8, je conclurai pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda une nouvelle alliance. C'est encore futur. Mais par anticipation, nous jouissons déjà de ces bénédictions. C'est ça la pensée à saisir. Mais formellement, nous ne sommes pas sous cette nouvelle alliance. Donc les 7 expressions que j'aimerais souligner qui montrent que littéralement, c'est encore futur. Je conclurai, verset 8. Ensuite, verset 10, c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ces jours-là. En mettant mes lois dans leur entendement, troisième expression, c'est aussi futur dans l'original. 4 expressions. Je les écrirai aussi sur leur cœur. Ensuite, au verset... Ok, c'est le cinquième point. 4, c'est je les écrirai. Et le cinquième point, c'est je leur serai pour Dieu. Ensuite, le sixième point, verset 12, je serai clément à l'égard de leurs injustices. Le septième point, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Donc c'est tout futur. Mais nous avons vu déjà que nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons une relation avec Dieu. Donc ici, c'est par rapport à Israël, c'est encore futur. Mais nous avons tous ces biens déjà, et même des biens qui dépassent la Nouvelle Alliance. Mais ici, dans le contexte, on peut dire nous avons toutes les bénédictions de la Nouvelle Alliance déjà maintenant, par anticipation, parce que nous appartenons au Seigneur. Quelques détails encore. On voit c'est Dieu qui a prévu cela, qui prédit tous ces détails au verset 8. On voit le contraste au verset 9, c'est différent, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, au jour où je l'ai pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Vous voyez, l'infidélité de l'homme, l'incapacité de l'homme, ainsi cette nouvelle alliance était nécessaire. Mais la nouvelle alliance ne sera pas remplacée. L'ancienne alliance a dû être remplacée par la nouvelle. Mais la nouvelle est permanente et même éternelle, Hébreux 13. Verset 10, il donne des détails. Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ces jours-là. Et là, j'aimerais souligner maintenant d'abord un changement intérieur qui était nécessaire, en mettant mes lois dans leur entendement. Ce n'était pas le cas avec l'ancienne alliance. je les écrirai aussi sur leur cœur. On verra des détails, si vous voulez, dans Ézéchiel 36-37. On pourrait lire aussi tout le passage dans Jérémie. Et lorsque Paul applique cela maintenant aux croyants d'aujourd'hui, dans 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3 serait un autre passage à lire avec, il mentionne 7 détails. Tantôt on a mentionné 7 expressions, mais dans 2 Corinthiens 3, il mentionne 7 détails pour montrer la supériorité de la Nouvelle Alliance, mais il l'applique maintenant aux croyants. Là, il ne dit pas que la loi est écrite dans nos cœurs, mais qu'est-ce qu'on voit dans 2 Corinthiens 3? Christ est écrit sur les tables de nos cœurs. Ça, c'est la différence. Il y a donc un parallèle, encore un contraste. Verset 11, il n'enseignera point chacun son concitoyen. Cette nouvelle ordre de choses, cette nouvelle alliance, va affecter l'ordre social. Ça va affecter aussi l'ordre, les choses religieuses. Par exemple, chacun son frère disant « connaît le Seigneur, car ils me connaîtront tout. » Ils auront chacun cette relation intime avec Dieu lui-même. Dieu sera leur Dieu. Mais ce Dieu qui sera connu dans le millénium par Israël est notre Dieu déjà maintenant. Et nous avons une relation d'amour. Le mot « connaître » implique, le verbe « connaître » implique une relation d'amour. La connaissance dans la Bible va toujours ensemble avec l'amour. Si on sépare l'amour, la connaissance de l'amour, la connaissance va enfler, comme 1 Corinthiens 8 nous montre. Mais la connaissance, selon les pensées de Dieu, est toujours dans le contexte de la relation d'amour avec lui, et aussi les uns avec les autres, évidemment. Verset 12, « Je serai clément à l'égard de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Lorsque vous allez étudier 2 Corinthiens 3, vous allez voir deux ministères par rapport à cette nouvelle alliance. Le ministère de l'Esprit, c'est par rapport à un travail en nous. Le ministère de la justice, c'est par rapport à une œuvre pour nous. Et pour le peuple, qu'est-ce qu'il avait besoin? Que leurs péchés soient pardonnés. Ensuite, il avait besoin d'un travail en eux-mêmes, par l'Esprit. C'est pour nous la même chose. Dieu nous a pardonné nos péchés, c'est le ministère de l'Esprit envers nous, c'est le ministère de la justice, et Dieu travaille maintenant par son Esprit en nous. C'est un ministère, un travail en nous. Maintenant, je vais revenir encore au début du chapitre. Ce qu'on a vu jusqu'à chapitre 8, c'est vraiment Dieu qui sort pour se manifester. On a vu dans l'Ancien Testament, le tabernacle, Dieu est sorti. Il commence par l'arche, ensuite il parle du candelier, il parle de la table, et Dieu sort pour rencontrer son peuple autour de l'autel, l'autel à l'entrée du tabernacle. Dieu sort. C'est ça qu'on voit dans Hébreux 1 à 7. Dieu se manifeste, Dieu sort, mais dans la personne du Seigneur Jésus, évidemment. Mais depuis chapitre 8, nous avons une autre pensée. Dieu nous introduit dans sa présence. Donc Dieu nous prend maintenant par la main, pour ainsi dire, et il nous introduit dans sa présence pour voir le Seigneur dans la gloire, pour voir l'efficacité de son œuvre, et pour voir aussi que nous avons un service là, dans la présence de Dieu. Ça, c'est les deux grandes pensées en hébreu. Dieu sort, se manifeste, et Dieu nous introduit dans sa présence. Peut-être je peux juste mentionner ces points et vous pouvez étudier en détail, parce que vous voyez que ici c'est un passage important qui décrit la nouvelle alliance, mais il faut vraiment étudier aussi 2 Corinthiens 3 et 4 pour voir d'autres détails et comment ça s'applique à nous aujourd'hui. Et les caractéristiques que je voulais juste énumérer, c'est la nouvelle alliance n'est pas basée sur nos œuvres. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui pensent que nous devons mériter le salut par nos œuvres. Si c'était le cas, on serait perdu pour toujours. Donc, la nouvelle alliance n'est pas basée sur nos œuvres. C'est basé uniquement sur l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus. Ensuite, la nouvelle alliance est donc fondée sur ce que Dieu a fait et sur les promesses de Dieu, non pas sur nos promesses ou sur notre intention ou ce que nous puissions contribuer. La troisième chose qu'on voit dans la nouvelle alliance, elle apporte des bénédictions. Mais pas seulement des bénédictions terrestres, comme sous l'ancienne alliance. Elle apporte des bénédictions éternelles et célestes et spirituelles. Ensuite, nous voyons dans la nouvelle alliance, il y a un lien entre le Fils de Seigneur Jésus et nous, les fils. Ce qu'on voit dans 2 Corinthiens, nous contemplons avec des yeux découverts, nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes des fils ici sur la terre, mais nous avons ce libre accès, comme Hébreux nous montre, et nous voyons Christ. Il y a une relation entre lui dans la gloire et nous sur la terre. Ensuite, nous voyons que dans la nouvelle alliance, Christ est écrit sur les tables de nos cœurs. Pour Israël, ce sera une loi qui sera établie, qui sera écrite sur leur cœur, Jérémie 31, et comme Hébreux 8, verset 10, le dit, je les écrirai aussi sur leur cœur. C'est les lois. Mais pour nous, les chrétiens, c'est Christ qui est écrit sur les tables de notre cœur. Ensuite, tous connaissent le Seigneur. Il n'y a pas de différence entre des classes, une élite comme le sacrificateur et le restant du peuple, ou comme aujourd'hui, le clergé et la laïté, non. Tous seront égaux devant Dieu. Pas de différence. Parce que Christ est écrit sur chacun de nous. Il n'y a pas de différence. Et par rapport à cela, il y a donc cet élément de la connaissance que j'ai souligné déjà au verset 11, ils me connaîtront. C'est donc une relation d'amour et dans ce contexte-là, une connaissance intime, personnelle entre le Seigneur et nous. Et avec l'ancienne alliance, il y avait toujours un souvenir des péchés. On verra cela en plus de détails, chapitre 9 et 10. Avec la nouvelle alliance, il n'y a même pas un souvenir des péchés. Donc, il y a de grands contrastes. Il y a sans doute beaucoup d'autres détails à mentionner par rapport à la nouvelle alliance, mais je pense qu'on peut terminer avec ceci. Et puis, si vous avez encore des questions ou s'il y a des choses qui doivent être clarifiées, j'aimerais savoir. Pour Israël, oui. Mais pour nous, c'est déjà le cas maintenant. C'est pour ça que j'ai dit, par anticipation, nous avons déjà tous les biens de cette alliance qui est encore future pour Israël. Si vous me permettez, j'aimerais mentionner deux choses que j'ai oubliées tantôt. La chose que j'ai oubliée au verset premier, c'est « Il s'est assis à la droite du trône de la majesté ». Si on compare cela avec Hébreux 1, nous voyons Christ aussi à la droite. Là, verset 3, c'est à cause de la grandeur de sa personne. Ici, c'est à cause de la grandeur de son office. Et plus tard, on verra encore deux fois, Hébreux 10, verset 12, il est à la droite de Dieu, pourquoi? L'œuvre est accomplie. C'est à cause de l'œuvre glorieuse qu'il a accomplie. Et chapitre 12, verset 1 et 2, il est à la droite de Dieu parce qu'il a accompli la marche, la course accomplie par lui-même, il est maintenant dans la gloire. Donc, toujours un autre contexte lorsqu'il parle de cette position à la droite. L'autre point que je voulais souligner encore, nous avons, et ça vaut la peine d'étudier l'épître, juste lire l'épître et trouver, pour trouver tout ce que nous avons par rapport au Seigneur Jésus, comme nous avons un tel souverain sacrificateur, c'est quelque chose que nous avons. Et ainsi, nous avons vu, nous avons un ancre, et ainsi, nous avons d'autres choses. Nous avons liberté pour entrer, nous avons une nuée de témoins. Chapitre 13, nous avons un autel, nous avons une cité qui est permanente, et aussi nous avons une bonne conscience. Il y a plusieurs choses que vous pouvez trouver dans cet épître, ce que nous avons. Et c'est aussi en contraste avec ce que les gens pensent souvent, que nous devons travailler fort pour pouvoir obtenir quelque chose. Non, nous avons tout déjà. Le point, c'est que nous devons faire un effort pour jouir de tout ce que nous avons. Ça, c'est notre responsabilité. Donc, cherchons de telles expressions, et puis on verra aussi qu'à travers l'Écriture, il trace une ligne par rapport à un sujet, et puis le sujet est développé plus tard en détail. C'est vraiment très beau de voir comment la structure se présente ici, et qu'il prend, il mentionne un point, chapitre 2 par exemple, où j'ai dit que nous sommes des fils qu'il amène à la gloire. Et ensuite, plus tard, il parle encore des fils. Il parle encore de ce que nous avons au chapitre 10, par exemple. Il revient sur ce thème plus tard, en détail. Ça, c'est souvent le cas. Puis, si on est alerte pour ça, ça va nous aider. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop découragé, parce que c'est un épître très difficile, mais en même temps, c'est très enrichissant. Donc, ça prend un effort, tout le temps. Mais si on fait cet effort, le Seigneur nous bénit, et là, nous pouvons jouir de la communion avec lui, et aussi jouir de sa grandeur, et présenter nos sacrifices, nos louanges devant Dieu. Nous avons cet épître pour nous aider, vraiment. Encore des points? Dans le contexte, c'est clair que ça ne s'applique pas aux Juifs. Le contexte nous parle de plusieurs fils, verset 10. Le contexte, c'est vrai, il parle aussi de la semence d'Abraham, verset 15 par exemple. Mais là, c'est dans ce contexte-là, la vraie semence d'Abraham, notamment ceux qui croient, les Juifs qui croyaient vraiment dans le Seigneur Jésus, étaient la semence d'Abraham. Les Juifs, les autres Juifs qui l'ont rejeté étaient vraiment la semence du serpent, comme Jean le baptiseur le dit, comme le Seigneur le dit aussi, de vipère même. Donc, dans ce sens-là, il n'y avait aucune relation entre le Seigneur Jésus et eux, malgré le fait que physiquement il y avait un lien, parce qu'il appartenait au même peuple, que moralement il n'y avait aucun lien. Le lien qu'on voit ici, c'est pas seulement par le fait qu'il appartenait à la, au même peuple, c'était surtout par le fait qu'il y avait maintenant un lien par rapport à la foi. La foi les a liés à Christ. Et ainsi, il y a donc immédiatement un parallèle avec nous. Si c'est le cas par la foi que les juifs chrétiens avaient un lien avec le Seigneur Jésus, nous, c'est la même chose, c'est par la foi que nous avons un lien avec lui. Et pour revenir au premier point que tu faisais, malheureusement, dans l'histoire de l'Église, l'Église a adopté le judaïsme. Donc, le judaïsme qu'on voit, qui a mis de côté le Messie, et ainsi Dieu a dû mettre de côté le judaïsme, ce judaïsme a été réintroduit dans l'Église. Et ainsi, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre pour nous aussi, parce que si Dieu a mis de côté ce système-là, c'est encore actuel pour nous aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas un autel littéral au milieu de nous, ce serait revenir aux ombres, et c'est ça qu'on fait dans l'Église. On a un autel littéral, on revient aux ombres et la figure des choses, verset 5, et ainsi on